Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue. Actualité économique du jour. J'imagine que vous avez suivi comme moi Emmanuel Macron hier à 13h. Je me suis un peu demandé pourquoi il avait pris la parole, puisque c'était pour nous dire que la réforme des retraites verrait le jour. Et d'ailleurs, bon, il a tenté d'expliquer, de convaincre. Je pense que ce n'est plus le sujet aujourd'hui. Même si on avait moins d'un actif pour un retraité et 10 milliards de déficit par mois, ceux qui sont contre resteraient probablement contre. Alors deux questions me sont venues. Il a dit à un moment, c'est pas par plaisir, et là je pense qu'il dit la vérité, que je réforme les retraites. Je me dis, pourquoi diable se lancer finalement dans la réforme la pire, la plus casse-gueule qui soit pour un président et pour un pouvoir, si elle est inutile, si elle est inefficace, si elle est injuste, si on peut faire autrement, même voir si on peut s'en passer. Cette question m'est venue hier. Et puis je me suis aussi demandé pourquoi, il y a toujours évidemment les oppositions disent non, non à une réforme des retraites, sauf que les mêmes oppositions, quand elles sont aux commandes, elles défont assez rarement la réforme des retraites contre laquelle elles se sont battues précédemment. Comment ça se fait ? On verra ce qu'il y a dans l'étude d'impact, car Michaël Zemmour est avec nous, il l'a décortiqué, et visiblement il y a des erreurs dans l'étude d'impact sur les retraites. Faut-il bannir les rachats d'actions ? Emmanuel Macron en a parlé hier, il veut imposer une contribution exceptionnelle aux entreprises qui pratiquent les rachats d'actions. C'est vrai que ça a pris de plus en plus de place. Et puis on évoquera les fameux droits et devoirs quand on parle du RSA. C'est l'idée que le travail doit payer plus que l'inactivité. Emmanuel Macron également en a parlé. De toute façon, c'est déjà dans l'idée de France Travail où normalement on doit aboutir à un système qui imposera entre 15 et 20 heures d'activité par semaine pour avoir droit au RSA. On essaiera de terminer en disant un mot de la BCE. Madame Lagarde a confirmé hier qu'elle va monter ses taux et qu'elle veut ramener l'inflation à 2%. Céline Antonin, bonjour.
Bonjour.
Économiste à l'OFCE, vous avez publié Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Jean-Hervé Lorenzi, bonjour.
Bonjour.
Fondateur du Cercle des économistes, président de l'Association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, co-auteur de La grande rupture, réconcilier Keynes et Schumpeter chez Odile Jacob. Et Michaël Zemmour, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, maître de conférence en économie à Paris, Panthéon-Sorbonne, chercheur associé à Sciences Po. J'ai tort de me poser ces deux questions, Jean-Hervé Lorenzi. Pourquoi diable se lancer dans une réforme des retraites quand tous ceux qui sont contre disent qu'elle sert à rien, qu'elle est injuste, qu'elle est inefficace, qu'elle est inutile, que c'est pas le moment, qu'on peut s'en passer, qu'on peut faire autrement? Pourquoi aller faire se lancer dans un truc où il n'y a que des coups à prendre?
Non, les deux questions que vous avez posées sont très judicieuses, mais ont des réponses qui sont évidentes.
Ben oui.
La première, c'est que je vous rappelle que la première loi sur la réforme des retraites, la réforme par point, a été votée. Il y a une loi
France
sur la réforme des retraites. Dieu sait si elle était compliquée et difficile à mettre en œuvre, mais la réalité, c'est celle-là. Donc, je veux dire, je vois mal un président de la République a fait voter une loi qui a lancé une mécanique. Certes, il y a eu la Covid entre les
mais c'est plus la même réforme
moment.
Du tout là.
C'est une réforme paramétrique alors que c'était une réforme systémique à laquelle moi j'étais très attaché et qui était une réforme en plus qui avait l'avantage d'avoir le soutien de la CFDT, ce qui était
c'est juste. Enfin, je crois que c'est plus la peine de l'évoquer parce qu'elle est
oui,
derrière
sauf
nous.
Oui, c'est la réponse à votre question. On peut pas laisser de façon l'objet était en l'air. Donc à un moment quelqu'un.
Ah, si on peut le laisser en l'air.
Et puis,
politiquement, on peut le laisser en l'air.
Non,
je peux dire, voilà, c'est pas le moment. Inflation, guerre en Ukraine, post-Covid.
Non, mais on peut parler du timing, mais le premier aspect. Le deuxième aspect, vous avez dit, aucun gouvernement de gauche ou de droite ne remet en cause les réformes que ont rarement remis en cause
les réformes contre lesquelles ils se sont battus avant.
Je vais dire 100% des gouvernements.
Oui.
Il y a eu énormément de réformes des retraites. Les gens ne se sont pas. Elles sont toutes sorties dans la douleur, hein, sauf celle de Balladur, parce qu'elle a eu lieu, elle a été développée pendant l'été 93, mais le reste, ça a toujours été absolument dramatique.
Il y a beaucoup d'hypocrisie, Jean-Avel Lorenzi. Ça veut dire que tous ceux qui tiennent des propos quand ils sont dans l'opposition sur les retraites savent fondamentalement qu'il faut que le truc bouge si on veut le faire vivre. Et je ne crois pas une seconde que Marine Le Pen ramènerait à 60 ans l'âge de départ si elle était présidente.
Écoutez, vous êtes un des rares personnalités formidable, qui arrive à se mettre dans la tête de Mme Marine Le Pen, mais évidemment que non. Donc, les deux questions sont judicieuses. Est-ce que vous avez un peu formulé la question de manière, c'est une réforme que jugez injuste, inefficace, etc.
Mais c'est ce qu'on a entendu tout le temps.
Il faut être un tout petit peu plus nuancé, on va en parler, j'imagine, avec Michaël. Sur la réalité, juste peut-être un mot, le corps, a quand même mis un désordre dans cette opération
aussi,
majeure.
Aussi.
Je veux dire, le corps qui est pas capable de donner une opinion claire, nette et précise sur le sujet.
C'est pas son rôle.
Si, c'est son rôle.
D'avoir un rôle d'expertise.
Un rôle d'expertise. Deuxième aspect.
Bah, on va passer la parole à Jean-Hervé. Voilà. C'est pas son rôle. Bah, son rôle, c'est quand même d'éclairer
le débat public. C'est d'éclairer le débat public, de donner des hypothèses en matière de productivité, etc., de montrer des simulations. Mais son rôle n'est pas. Enfin, hier, il a un rôle d'expertise.
Oui, mais ce qui est extraordinaire.
Mais ensuite, la décision politique ne dépend pas de lui.
Je suis d'accord, Céline. Je suis d'accord. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde pouvait trouver dans le rapport du corps de l'argument. Pour être d'un côté ou de l'autre.
Mais ça prouve qu'il fait bien son travail.
Pas du tout. Non, mais je peux pas laisser le dire ça. Je veux dire, le corps, à un moment,
a une hypothèse de temps
de productivité, de gain de productivité, de ceci, et dit, il y a un risque ou non de dérapage.
Mais
on peut avoir une opinion ou non.
Il dit, il n'y a pas de risque.
Il n'a pas dit, j'ai passé suffisamment de temps.
Michael Zemmour.
Donc, le Conseil d'orientation des retraites, il fait un diagnostic de l'état de la situation, comme l'OFCE fait un diagnostic de la macroéconomie. Et l'OFCE vous dit pas, il faut faire telle ou telle réforme. Il dit, ça va bien, ça va mal, c'est grave, c'est pas grave.
Oui, mais pas avec 25 000 possibilités.
Donc le corps, justement, parce qu'il est transparent sur ses hypothèses, il nous dit la situation du système de retraite. Et il nous dit, les dépenses de retraite sont stabilisées. Ça va se faire au prix d'un décrochage des pensions dans les 20 années qui viennent. Et il y a un déficit prévu, qui est un déficit modéré, qui ne met pas en danger le système. Voilà. Et il y a une deuxième institution, le comité de suivi des retraites, qui lui est chargé de faire des recommandations, et ces recommandations sont assez claires. Il dit, on est à risque de déficit résiduel persistant. Ça veut dire ce que ça veut dire.
Ça veut dire
que c'est pas dangereux, ça veut dire qu'il y a quelque chose dont il faut s'occuper, et lui est chargé de faire des recommandations, et il dit, attention, si on ne fait que le levier d'âge, il y a un problème, parce que ça va raccourcir rapidement la retraite par rapport aux générations qui viennent de passer. Il y a trois leviers, il faut réfléchir à l'équilibrage, mais il faut réfléchir aux trois leviers. Donc on a une institution qui fait un diagnostic.
Les leviers, c'est combien je paye, combien je touche quand je suis à la retraite, et combien de temps je travaille.
Exactement.
Voilà, c'est ça.
Et la difficulté, c'est que le gouvernement n'a pas suivi les recommandations du comité de suivi des retraites, qui n'étaient pas des recommandations fermes, qui étaient des grilles, des pistes. Il a choisi d'utiliser un seul levier, l'âge de la retraite. Alors, avec deux outils, hein, l'âge minimal de départ à 64 ans et l'accélération de la durée de cotisation à 43 ans. Et en choisissant ce levier-là, il fait une réforme qui est très rapide, plus que nécessaire, et qui est brutale, parce qu'elle va concentrer tous les efforts dans les 10 premières années sur les personnes aux portes de la retraite. Personnes
qui ont
55 ans ou plus.
Vous avez identifié les dates de naissance des gens qui vont vraiment être les plus touchés. Je reviens à ma question de départ, Céline Antonin. Inefficace, injuste, inutile. Bon.
Non.
Si c'était le cas, pourquoi faire ça? On sait quand on est président qu'on va s'en prendre plein la figure si on met le mot retraite avec en plus une borne d'âge. C'est évident qu'on va avoir 80% d'opinion.
Pour moi, il y a deux raisons. La première raison, c'est le fait que Emmanuel Macron ne voulait pas rester sur un échec avec la réforme à points, je pense. Parce que ça a été vécu comme un échec.
Oui.
Et il ne voulait pas rester sur ça. Bon, alors, en plus, avec les écueils, moi, personnellement, je n'étais pas en faveur de cette réforme parce que je pense qu'elle comportait beaucoup d'écueils, notamment sur la baisse pour les carrières heurtées, la baisse des pensions, etc. On ne reviendra pas là-dessus. Et la deuxième, c'est que je pense qu'il profite aussi de cette réforme pour donner des gages à son aile droite, en fait, et pour élargir sa majorité. Donc, pour moi, c'est deux raisons politiques, mais c'est quelque part, ce sont de mauvaises raisons parce que je ne
pour des raisons politiques,
oui,
il l'a
pour
fait.
Pour moi, ce sont des raisons.
Pas pour des raisons fondamentalement de survie du système, c'est votre analyse. Alors, il y a aussi ceux qui disent, et c'est un élément, c'est aussi un signe envoyé au reste du monde qui nous prête de l'argent.
Oui, il y a l'aspect budgétaire aussi compte, parce qu'il faut aussi donner des gages, même à la Commission, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on sort aussi de la crise Covid, qu'on a le bouclier tarifaire contre l'inflation. Enfin, on dépense quand même beaucoup aussi, donc c'est un moyen aussi de dire, vous voyez, je fais quelques économies. Mais pour moi, l'argument, il est quand même essentiellement politique.
Quand vous êtes un fonds souverain à 5000 km de la France, 49.3, vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais vous savez qu'un pays qui dit « je réforme ma retraite en bougeant ma borne d'âge », c'est un pays qui essaye d'assurer l'équilibre de ses finances, en théorie, et ça vous rassure. Voilà. Ça, c'est basique comme lecture. C'est simpliste. Michael Zemmour, oui.
Vous avez vu que Moody's, l'agence de notation, dit finalement, nous, on met on fronce les sourcils sur l'instabilité politique liée au 49.3. Mais je voudrais revenir sur ce que vous dites.
Allez-y.
Pourquoi est-ce que le président de la République fait cette réforme? Vous avez donné des explications. Ce qui est faux, par contre, c'est le discours qui consiste à dire « c'est dramatique, c'est urgent et j'ai pas le choix ». Ça, c'est pas vrai. Il y a évidemment le choix, il n'y a pas d'urgence. Pour donner juste un ordre de grandeur, on prédit un déficit de 10 à 15 milliards dans les 5 années qui viennent. On a des réserves de l'ordre de 200 milliards. Les réserves ne sont pas faites pour éponger le déficit, mais c'est une preuve supplémentaire qu'on n'est pas en danger d'urgent.
Dans ces 200 milliards, Michaël Zemmour, on est d'accord, vous pensez au fonds de réserve des retraites, à Agirc-Arrco, mais aussi à tous les régimes privés. Les notaires, les pharmaciens, si vous commencez à leur dire que leurs sous-sous vont...
Et à l'Agirc-Arrco aussi.
Mais c'est ça cet argent, c'est bien ça.
Sans rentrer dans les détails, je veux juste vous dire que si vous avez un déficit léger de 3% de votre chiffre annuel, mais qu'à côté vous avez 200 milliards qui représentent quasiment une moitié d'année, vous n'êtes pas en urgence. Et donc le discours qui dit « je n'ai pas le choix, c'est urgent, si je ne fais pas la réforme, les marchés vont s'affoler », ce n'est pas un discours sérieux parce qu'il ne permet pas d'avoir la discussion sur... Qu'est-ce qu'on fait ? On a un déficit qui arrive, qu'est-ce qu'on fait ? On a trois leviers. Il y a la question très importante de l'emploi des seniors, souvent soulevée, et qui serait en partie une solution. Et donc, c'est ça le problème de fond. C'est de dire, j'ai pas le choix. Évidemment, il y a le choix.
Jean-Hervé Lorenzi, Céline Antonin.
Juste peut-être une chose pour dire, cher
Marquez, je peux vous laisser, vous faites les choses.
C'est quand même le sujet clé aujourd'hui. Dieu sait si je partage l'opinion selon laquelle le taux d'activité des seniors, c'est nous qui avons fait les calculs. Évidemment que c'est un levier beaucoup plus important que n'importe quoi d'autre. Il n'empêche que on a des déficits publics qui sont très importants, ça existe. Donc je les mets dans le paquet. Je suis assez d'accord sur le fait qu'on est de l'ordre de 10 000 ou pas, d'ailleurs, Hervé Lebras explique que c'est peut-être pas le cas, si tout dépend de l'évolution de l'âge à lequel on disparaît. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas que 10 milliards, il y a 30 milliards. Ah. Alors ça, le corps n'aime pas qu'on dise ça.
Oui, ils veulent
il y a 30
pas,
milliards hein. qui sont... Si, c'est vrai. C'est 30
vrai.
Milliards qui sont en réalité, et je trouve ça très bien, j'en ai bénéficié, toi aussi, tu vas en bénéficier. Donc je
rappelle Jean-Hervé, parce que c'est complexe, c'est la cotisation de l'État employeur qui surcotise au régime de retraite nettement plus qu'un employeur du privé, et donc il fait rentrer effectivement une trentaine de milliards par la case recettes, tandis que si elle ne rentrait pas
expliquer ça,
par la case
non,
recettes
mais tu peux l'expliquer avec deux, il n'y a pas besoin de beaucoup l'expliquer,
mais
c'est d'une certaine publique
expliquer, voilà. Mais c'est quand même vrai,
donc c'est pas le cas.
Quoi, c'est pas vrai?
Il y a deux systèmes de retraite en France.
Oui.
Il y a le système de l'État et il y a le système des salariés du privé. Les salariés du privé, ils ont historiquement une caisse pour une raison très simple. C'est que si votre entreprise fait faillite un jour, vous avez envie d'avoir une sécurité sur votre retraite et donc que votre retraite soit pas garantie par votre entreprise, mais par une caisse. C'est pour ça qu'il y a un système de cotisation par répartition. La retraite de l'État ne fonctionne pas par répartition. Traditionnellement, l'État est son propre assureur et donc le seul engagement de l'État, c'est qu'il paye ses fonctionnaires en activité, et quand les fonctionnaires sont à la retraite, ils maintiennent leur traitement. D'accord ? Une partie de leur traitement, et c'est ça leur retraite. Donc on a deux systèmes, un par répartition, et de l'autre côté, l'État qui maintient le traitement des fonctionnaires. Et donc, on ne peut pas appliquer, quand on dit 30 milliards, etc., on applique le mode de comptabilité de la retraite du privé à celui de l'État. C'est aussi faux que si, par exemple, j'examinais la stabilité du système des retraites des salariés du privé avec le système d'une banque. C'est pas une banque, c'est un système par répartition. Bah, de la même manière, le système de l'État, c'est pas un système par répartition.
Non, mais à l'arrivée, Michael, l'ensemble des retraités passe bien par la CNAV.
Non. Pas du tout, c'est le régime de la fonction publique d'État. Et donc les cotisations dont vous parlez, les surcotisations, c'est quelque chose de très récent. Dans la fonction publique, depuis une quinzaine d'années, on fait apparaître des fausses cotisations que l'État se paye à lui-même. Et les gens qui n'ont pas la mémoire de ce que c'est la retraite de la fonction publique d'État croient qu'il y a un déficit caché, mais c'est
Michael,
pas du tout ça.
Michael, moi qui suis dans ce cas-là,
on avance après,
que je suis bénéficiaire à la fin, je compare ma retraite par rapport à la retraite d'un garçon ou d'une fille qui a le même âge que moi, et je regarde quelles sont les conditions dans lesquelles il reçoit de l'argent. Et en fait, c'est un avantage que les fonctionnaires ont, et réjouis. Mais bien sûr.
Quand on regarde la retraite, je pense qu'il faut
qu'on
regarde...
Quand on regarde la retraite,
il faut prendre aussi la vie active, et je suis désolée, mais dans la fonction publique, globalement, on regarde à diplôme égal et à qualification égale, équivalente, les salaires ne sont pas comparables non plus. Et donc, il faut regarder sur l'ensemble.
Très bon argument.
Donc, la retraite est aussi, pour moi, dans la fonction publique, il y a un certain nombre de métiers pour lesquels on lisse, en fait, les choses sur le cycle de vie par rapport au privé où on a...
Sans revenir là-dessus, très bon argument. Mais très bon argument. Je suis d'accord avec ça. Je suis de vous trois le seul qui en est bénéficiaire. Donc arrêtez de m'expliquer ce que je reçois chaque mois. Il se trouve que les rémunérations sont plus faibles, on est d'accord. Les conditions sont pas les mêmes, on est d'accord. Il y a un désavantage et des inconvénients. On a peut-être raison, et j'en m'en réjouis, de que l'État, mais il se trouve que l'État remet de l'argent dans le dispositif. C'est comme ça.
Cette année, la DRES, donc le ministère des Affaires Sociales, a sorti une étude. Qu'est-ce qui se passerait si on appliquait aux salariés du public les règles du privé? Et la réponse, c'est ça dépend, mais ça serait pas plus favorable du tout en moyenne.
Je suis d'accord.
Ça serait à peu près pareil. Donc on peut pas dire que les retraites dans le public sont plus favorables.
Mais il y a des variations. C'est une dépense publique.
Oui,
on peut dire que l'État ne dépense pas assez pour les rémunérations des fonctionnaires. C'est un premier sujet.
Bien sûr.
Mais il se trouve que pour les retraites, il dépense 30 milliards de plus. Je veux dire, c'est quand même enfantin, ça.
Bon, Mickaël, tous les sujets sont passionnants, mais c'est pas un colloque en fait. Ici, on peut pas tenir jusqu'à midi.
Il y a peut-être un dernier argument, c'est que je pense que c'était un moyen pour récupérer aussi le solde de certaines caisses de retraite spéciale. Je pense à la Banque de France, par exemple.
Ah, oui.
Donc je pense que ça aussi, c'était un moyen.
On peut s'amuser. On peut s'amuser effectivement à aller. On peut s'amuser à aller prendre un peu d'argent, par exemple, à la maladie professionnelle et aux accidents du travail. On peut peut-être s'amuser à aller en chercher un petit peu dans des caisses d'institutions publiques. Encore une fois, si on commence à dire aux notaires, aux pharmaciens et qu'on sort que eux aussi, ils font partie des 200 jolis milliards qui serviraient de police d'assurance.
On l'a dit aux employés, mais pas aux notaires.
Ça va très mal se passer. Hein.
Et la réforme des retraites est acceptable par beaucoup de gens parce que la CFDT, qui est un syndicat pas tout à fait antipathique, se trouve et être d'accord sur l'idée qu'on réforme à travers le point. Donc ça veut dire que c'est pas un sujet tabou. C'est pas un sujet tabou. On en discute et j'aime beaucoup la manière dont vous en parlez, mais c'est pas un crime contre l'humanité de dire qu'il y a une évolution démographique qui fait qu'on parle d'un sujet.
Moi, je suis absolument d'accord, mais simplement les conditions dans lesquelles elles
sont
très clivantes
bien
et
sûr.
Ne peuvent que susciter.
Puis il y avait le choix, il y avait l'espace pour un débat qui n'a pas eu lieu.
Bien sûr.
Il faut poser des sujets sur l'emploi des seniors et autres.
Non, mais là, il y a un vrai sujet là-dessus. Et puis, ça a eu le mérite au moins de l'ouvrir en grand, ce sujet, même s'il n'est pas parfaitement renseigné, même pas du tout renseigné. En tout cas, le sujet est ouvert en grand et ouvert en grand dans tous les esprits aujourd'hui. C'est plus simplement une histoire d'experts réunis dans un salon à huis clos. Quand Mickaël s'est rendu gentiment disponible pour être là ce matin, il me dit hier qu'il y a des erreurs dans l'étude d'impact sur les retraites. Et je lui réponds, je n'ai pas vu ça. Votre expertise m'intéresse.
On savait que la réforme avait été faite très vite et que donc il manquait des choses dans l'étude d'impact. Notamment, il manque un bon passage sur la macroéconomie. Parce que quand on réforme les retraites et qu'on veut pousser davantage de personnes sur le marché du travail, faut faire la macroéconomie. Tout ça, on savait que ça y était pas. Et donc, on peut discuter des hypothèses, ça c'est courant. La nouveauté, c'est que, en re-regardant cette étude d'impact, il y a une erreur de méthodologie. Qui est pas très importante en montant, mais qui est quand même assez significative de la précipitation. Je vous explique. Le gouvernement, quand il rend sa copie à Bruxelles, il a déjà intégré la réforme des retraites comme un élément qui va augmenter l'emploi. Et c'est ce qu'il a mis dans son programme de stabilité. Et donc, il a déjà compté à l'avance la hausse des recettes de cotisation qui est liée à l'augmentation de l'emploi des seniors. Et quand il va compter les effets de la réforme des retraites, il va recompter une deuxième fois, d'une part, les retraites qu'il ne va pas payer, mais aussi cette hausse des cotisations. Autrement dit, dans l'étude d'impact de la réforme des retraites, il y a entre 2 et 4 milliards de recettes supplémentaires qui sont comptées deux fois. Une fois avant la réforme, parce qu'elles sont comptées dans le programme de stabilité, et une fois dans le calcul de la réforme, parce qu'elles sont comptées dans les gains. Et donc ça, c'est...
Elles apparaissent fois 2 au bout du bout, parce que...
Tout à fait.
Qu'on l'intègre dans le document pluriannuel de Bruxelles, bon, à la limite, ça se comprend.
Mais on aurait dû les retirer quand on calculait le solde de la réforme.
Ça nous fait quoi? 4 milliards de...
En 2017, ça fait 3-4 milliards sur les 17. Voilà. Donc, il y a bien 17 milliards d'économies liées à la réforme. Mais par contre, il y en a 3 ou 4 qui avaient déjà été comptés avant la réforme. Et donc, c'est une erreur méthodologique assez importante. Sur la construction.
Jean-Hervé,
Mickaël a raison. Cela dit, il y a tellement d'hypothèses dans cette opération. Nous sommes, là je parle de la chaire transition démographique. Nous avons fait des calculs sur l'évolution des taux d'activité en montrant que en 2032, on arrivait à l'équilibre tout simplement parce qu'on augmentait 10% en 10 ans l'augmentation du taux d'activité de 55 à 64 ans. Donc c'est vrai, mais c'est pas le... là je suis d'accord avec Céline, c'est pas le sujet, je veux dire le problème de méthodologie, d'autant plus que ça peut être utilisé dans les deux sens.
Non, je suis d'accord avec vous que globalement le diagnostic n'est pas changé. C'est-à-dire qu'il y a des hypothèses trop optimistes sur le chômage, il y a des hypothèses trop pessimistes sur la fonction publique qui ont tendance à plomber le déficit. C'est une de plus. La différence de celle-là, c'est que c'est pas une hypothèse transparente. C'est une erreur dans la construction du document.
Et vous diriez que c'est une erreur ou c'est un où on joue un peu avec l'ambiguïté ?
Ça, franchement, j'en sais rien. Ah.
On va marquer une pause. Dans un instant, on va parler des rachats d'actions. Est-ce qu'il faut bannir les rachats d'actions ? Ça a été un peu la jambe gauche d'Emmanuel Macron hier dans sa prise de position. Les rachats d'actions, c'est mal. Les entreprises qui en font devront contribuer. Alors attention, pas de taxes, pas d'impôts. Bruno Le Maire a expliqué un peu plus tard au Sénat, les entreprises de plus de 5000 personnes, donc très peu finalement, qui effectivement réalisent des années absolument incroyables, eh bien, et qui rachètent leurs actions, devront donner un peu plus en participation, en intéressement ou en prime à leurs salariés. Salariés du CAC 40 qui sont déjà parmi les mieux traités du pays et qui d'ailleurs sont souvent aussi, dans bien des cas, les premiers actionnaires de ces entreprises. Bon, voilà, on essaiera d'en dire un mot. Et puis, on va parler du RSA. Il y a aussi eu une sortie du président sur le RSA, les fameux droits et devoirs, vous connaissez l'histoire par cœur. Et Jean-Yves Lorenzi aura une saillie concernant la fainéantise ou pas du pays. Voilà, à tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Céline Antonin, économiste à l'OFCE, qui a coécrit Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Jean-Hervé Lorenzi, le fondateur du Cercle des économistes, président de l'Association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Et BFM Business y sera, bien sûr, comme chaque année, le cercle partenaire de cette émission chaque jeudi. Et Jean-Hervé, qui est co-auteur de La Grande Rupture, Réconcilier Keynes et Schumpeter chez Odile Jacob. Et Michael Zemmour, maître de conférence en économie à Paris, Panthéon, Sorbonne, chercheur associé à Sciences Po, devenu l'un des économistes stars du sujet des retraites, puisqu'on vous a quand même très souvent consulté dans la mesure où vous avez un mérite, c'est que vous bossez le sujet. Et c'est pas le cas de certains qui causent, qu'ils soient pour ou contre d'ailleurs cette réforme. Qu'est-ce qu'on a entendu comme... Céline, faut-il... Est-ce que c'est mal les rachats d'actions ?
Déjà, on va peut-être juste rappeler ce que c'est.
Oui, exactement.
Donc, c'est un mécanisme par lequel, effectivement, une entreprise peut racheter ses propres actions. Et ce faisant, en fait, elle va, quelque part, faire monter le cours de l'action, puisque ce qui est rare devient plus cher. C'est un phénomène qu'on appelle la relution, donc, pour les experts, enfin, entre guillemets. Et donc, c'est un mécanisme qui est assez valorisé par les actionnaires, puisque, effectivement, c'est à long terme, ça va avoir un effet sur le cours de l'action. C'est un peu différent du dividende, parce que le dividende, c'est à court terme, alors que là, on est plus sur un effet de long terme. C'est un mécanisme qui est très plébiscité aux États-Unis, hein, puisque dans le mode de rémunération des actionnaires aux États-Unis, on doit être à peu près aux deux tiers, donc qui sont rémunérés via cette relution, alors que c'est à peu près un tiers en Europe. Et on a vu qu'en fait le phénomène prenait beaucoup d'ampleur ces derniers temps. Alors c'était des entreprises comme Apple, par exemple, aux États-Unis, qui utilisaient beaucoup ce mécanisme. Et on voit que des entreprises comme Total, là, vont racheter pour 2 milliards leurs actions. Donc on voit que ça prend de l'ampleur. Et là, il y a une vraie question. Et même aux États-Unis, je sais que Joe Biden voulait, par exemple, relever l'imposition, justement, qui était associée à ces rachats d'actions, ramener le taux de 1% à 4%, il me semble.
C'est ça.
Donc, ce qui est quand même assez important.
C'est son intention. La taxe, elle date de janvier aux États-Unis.
Le problème de ça, c'est que c'est vrai que ça nous prive d'investissement, hein, puisque, effectivement, ce qu'on investit en rachat d'actions n'est pas investi en investissement. Et par ailleurs, on est dans la question du partage capital-travail aussi. Et donc, il faudrait sans doute redistribuer davantage. Donc, j'allais dire, après, c'est des stratégies, c'est toujours compliqué, je trouve, de trop intervenir dans la stratégie de gestion d'une entreprise, parce qu'elle peut avoir des raisons à court terme d'opérer des rachats d'actions, hein, de diminuer son capital, de l'augmenter. Donc,
Lesquels tu
dis
avoir je fais du Nicolas Dose comme ce matin. Je suis farouchement opposé au rachat d'actions.
Mais moi, je suis.
Mais quelles sont les raisons qui sont dans la stratégie très profonde d'une entreprise, à part de faire monter le cours?
Oui, bah c'est faire monter le cours. C'est soutenir le cours de son action pour envoyer un signal positif au marché, quoi.
Enfin, mais j'ai du mal, moi, à me faire une religion définitive sur cette. Bon, je considère que la bourse, c'est là pour ouvrir son capital et pour le faire grandir. pas pour le faire maigrir. Voilà. Et pour croître, normalement.
Bah, sauf si on veut à un moment donné
faire... Mes amis, on ne peut pas tous les jours expliquer que nous avons une transition écologique, que nous avons une transition environnementale, qu'il va falloir investir de manière massive sur ces sujets-là, auxquels je rajoute... Là, c'est ma spécialité, sur le vieillissement, évidemment, des coûts d'investissement massifs, parce qu'il va falloir complètement préparer ce choc du vieillissement qui va avoir lieu de manière très forte dans les années qui viennent. Tout ça suppose 5, 6, 7% de plus de PIB en investissement. Et à ce moment-là, on retire de la capacité d'investissement, disons en France... Parlons de la France, plus d'une centaine de milliards d'euros, mais ça n'a aucun sens.
Le CAC 40, c'est 24 milliards de rachats d'actions en 2022. Hein. 24 milliards sur 142 milliards de profits. Aux États-Unis, on a dépassé les 1 000 milliards de dollars.
Non, mais aux États-Unis,
le phénomène est l'un
des grands pays.
D'ailleurs,
très
je crois que c'est une des explications entre la valorisation du marché boursier américain versus la France. Enfin, ça fait partie des.
Mais donc, il y a un des grands pétroliers qui a annoncé 75 milliards sur 5 ans. L'un des grands pétroliers américains, je ne donne pas de nom, c'est l'un des très grands, parce que je ne sais plus, entre ExxonMobil et Chevron, j'ai un doute. Oui, Michael Zemmour.
Moi, je suis d'accord que ça apparaît pathologique, ces rachats d'actions. La question, c'est est-ce que c'est taxer les rachats d'actions la principale solution ? Il y a deux choses qui peuvent être le problème. Le premier problème, c'est s'il y a des entreprises qui ont trop d'argent, qui font des super profits, et c'est peut-être ces super profits qu'il faut taxer directement. Et la deuxième chose, je suis d'accord avec Jean-Hervé Lorenzi, il y a des besoins d'investissement, mais le plus probable, c'est que si on interdit les rachats d'actions, les entreprises vont faire d'autres opérations financières. Si on veut qu'elles investissent, peut-être qu'il faut organiser autrement la décision et notamment associer les salariés aux décisions d'investissement pour qu'il y ait des stratégies pas uniquement financières, mais de politique industrielle dans les entreprises.
Enfin, en tout cas, là, il ne s'agit pas de taxer, hein, il s'agit d'imposer.
Mais
jusqu'à un doublement de la participation.
Il y a eu un accord
Bruno
sur le partage de la valeur dans lequel il y avait des questions de distribuer des actions aux salariés, etc. Oui. Je crois qu'on a relevé le seuil de 30 à 40% donc, de distribution d'actions gratuites. Donc voilà, il y a quand même ce genre de mécanisme.
Mais l'idée, ce serait d'aller plus loin dans ces mécanismes lorsqu'il y a des années totalement exceptionnelles.
Oui, ça introduit aussi des différences entre salariés. Hein, entre
à mon avis, on est en train de dériver. Peut-être faut-il, il y a dans la sociologie d'un pays, l'envie d'investir ou de pas investir. On nous dit à juste titre que nous avons besoin, pour votre génération et celle qui suit, de manière massive de décarboner ce qui coûte évidemment très très cher. Je veux dire, on ne peut pas à la fois dire ça et se priver de la capacité que des entreprises qui sont faites en réalité de citoyens, il ne s'agit même pas d'augmenter la rémunération en premier des salariés, il s'agit d'abord de savoir si les entreprises sont des contributeurs à l'investissement. Relisez Max Weber, Le Capitalisme. Vous l'avez dit, je dis relisez, mais c'est une manière très amicale de vous parler. Lisez ou relisez Max Weber, Le Capitalisme, c'est fondamentalement la volonté d'investir. C'est ça le sujet majeur du fonctionnement d'une société capitaliste. Alors c'est très protestant, cette vision de ce monde pour faire progresser la société. Il se trouve aujourd'hui que la progression de la société passe par l'investissement dans la décarbonation. On peut pas... Enfin, je veux dire, c'est ça le fond du sujet. Alors après, on peut regarder s'il faut augmenter la participation, mais c'est un sujet secondaire par rapport à ça. Le sujet
la question du partage de la valeur, elle est importante au sein de l'entreprise.
Et là, il y a un accord interprofessionnel qui a été trouvé et qui, normalement, doit être transcrit mot pour mot dans la proposition de loi à venir.
Mais je veux dire, pour moi, la question du partage de la valeur est quand même cruciale. Parce que là, vous parlez de la transition écologique, mais il y a d'autres questions. L'automatisation, je veux dire, le fait que...
Cher ami, je suis 1000 fois d'accord. Et donc, comme je sors un bouquin qui porte uniquement sur la répartition en expliquant qu'il faut évidemment la modifier parce que la part des profits a augmenté de manière trop forte pour la croissance. Mais je veux dire, laisser ce message, là on est sur des messages, donner le sentiment au fond que l'objectif premier d'une entreprise, c'est celle d'ailleurs de Friedman. Donc à ma connaissance, tu n'es pas friedmanienne. Donc,
ah mais moi,
la valorisation, je veux dire, c'est un discours qui dépasse largement celui de l'entreprise. C'est qu'est-ce qu'une société fait pour s'associer à la décarbonation.
Je n'ai pas dit ça, j'ai juste dit que c'était une stratégie d'entreprise, que c'était une stratégie d'entreprise et que c'était difficile en soi d'avoir un jugement définitif et péremptoire sur le fait qu'une entreprise, à un moment donné, rachète ses propres actions. C'est tout. Je veux dire, après, je suis tout à fait d'accord. Moi, je plaide pour l'investissement, c'est évident.
J'avance. Leningman, merci Monsieur Lorenzi au sujet des rachats d'actions. Il y a John écrit, si on arrête les rachats d'actions, on détériore la valorisation de nos entreprises. Et Arsène, il faut arrêter de dire n'importe quoi sur le rachat d'actions. Les entreprises sans projet rendent l'argent aux investisseurs qui l'investissent où ils veulent, notamment dans les secteurs plus porteurs. L'argent ne s'envole pas dans l'espace, il est réinvesti.
Je pense qu'on a un investissement. Il est replacé, mais il n'est pas forcément investi.
Oui, bah, replacé, si vous rachetez d'autres actions d'une entreprise d'un secteur de demain,
de la transition écologique, placement, par exemple, à ce moment-là, ça va financer
des... Non, si vous rachetez d'autres actions émises, le cours de l'action va augmenter.
Tout le monde sait que la France a un problème de financement de son économie réelle, que son taux d'investissement est insuffisant, que une large partie des entreprises, quand elles veulent se faire racheter les petites boîtes qui sont les ETI, qui elles se tournent pas en France, mais elles vont aux États-Unis, en Chine, en Allemagne.
Oui, mais là, on pourrait invoquer les capital risqueurs, les business angels, etc. Et le rôle de l'écosystème. Non, mais le rôle de l'écosystème de financement qui, justement, est peut-être trop petit par rapport à d'autres pays, notamment les États-Unis. Donc,
Il y a Fett qui me dit que racheter les actions libère de l'argent pour que les vendeurs de ces actions puissent les investir ailleurs. Mais ça dépend où. Bon, d'accord, ok.
Je fais de la macroéconomie, pas sur l'entreprise, je me garde bien. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi les interdire.
Il ne s'agit pas de les interdire.
Non, je dis juste que le discours général doit être celui de la mobilisation d'une société, une mobilisation pour ce qui est le projet de votre génération, c'est-à-dire celui de la transition écologique. C'est quand même pas d'une complexité extrême à comprendre. Et c'est clair que le rachat d'actions n'est pas un signal top sur ce sujet-là. Je veux dire, c'est un problème qui ne porte pas sur telle ou telle entreprise. C'est un problème qui est, la société française veut-elle ou non investir dans son avenir ?
Parmi les sujets éco hier évoqués par Emmanuel Macron, il y a le RSA. Emmanuel Macron ressort l'histoire des droits et des devoirs. Je ne sais plus qui a inventé la formule, je crois que c'est Sarkozy qui avait inventé cette formule. En parlant du RSA, avec l'idée que le travail doit payer plus que l'inactivité. Seulement, en théorie, l'idée d'imposer du travail en échange du RSA, entre 15 et 20 heures par semaine, elle est dans les tuyaux et elle doit être mise en musique par le projet France Travail. Comment vous appréhendez ce sujet, Michaël Zemmour?
Il faudrait commencer par parler sérieusement du sujet et pas par dire des choses fausses. Le président de la République dit quelque chose de faux s'il a dit que le travail payait moins que l'inactivité.
Non, il a pas dit ça comme ça. Il a dit il faut pas que le sentiment s'installe que le travail paye moins.
Le sentiment. Donc il y a une étude de France Stratégie de 2019 qui montre que dans toutes les configurations familiales, quelqu'un qui vit au minima social gagne moins qu'en étant en activité, mais que depuis les années 2000, prendre une activité, ça ne protège pas ou moins qu'avant de la pauvreté. Donc ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, quand on reprend un emploi, on améliore son niveau de vie, donc on vit pas mieux aux minima sociaux, c'est pas vrai. Par contre, prendre un emploi ne protège pas de la pauvreté. Ça, c'est le premier
point. Pour un emploi peu qualifié.
Parce que souvent, justement...
Et pas à temps plein.
Mais c'est bien le problème. Et ça, c'est le deuxième point. C'est que la politique qui va être mise en avant, c'est plutôt une politique de sanctions. Alors, d'abord, des sanctions sur le RSA, il y en a déjà. Chaque mois, il y a des personnes qui se voient suspendre les minima sociaux pour tout un tas de motifs et qui sont parfois des sanctions administratives. La deuxième chose, c'est qu'il y a des études assez précises qui montrent que quand vous poussez à l'activation trop vite des personnes qui ont des fortes difficultés sociales pour des emplois à temps partiel de mauvaise qualité, vous allez en fait les maintenir plus longtemps dans la précarité plutôt que de leur laisser le temps de régler leurs problèmes de santé, de logement, de transport, et ensuite de trouver un emploi à temps plein, de qualité, qui leur permet de sortir de la précarité.
Ça veut dire qu'il faut faire du cas par cas.
Ça veut dire qu'il faut laisser le temps et que le discours...
Mais laisser le temps, il y a ceux qui sont dans la situation que vous décrivez, ceux qui ne le sont pas, et donc au cas par cas, il faut...
Le discours du président de la République, qui est un discours à la fois de sanction et de stigmatisation, est pas raisonnable vis-à-vis du sujet.
Ça m'a pas mal. Alors moi, je suis pas France. C'est France Stratégie que vous avez cité.
Oui, 2019.
Ce sujet m'intéresse parce que c'est vrai que l'arbitrage entre ce que rapporte le panier des aides sociales et ce que va rapporter un tout petit salaire, parce que justement on est au salaire minimum mais qu'on est à temps partiel, l'arbitrage peut quelquefois.
Non.
Je dis pas qu'on gagnera plus sans travailler ou autant sans travailler, mais l'arbitrage peut raisonnablement et de manière rationnelle se faire chez quelqu'un. Je sais pas, moi je me souviens m'être retrouvé sur un plateau de télé à répondre pendant la crise des Gilets jaunes à une mère de famille qui avait 3 enfants et qui expliquait que si elle devait travailler, Il fallait qu'elle paye du transport, qu'elle se nourrisse à midi, qu'elle fasse garder ses enfants, et à partir du moment où elle avait une rémunération, elle perdrait ceci, cela. Et bien, l'arbitrage rationnel l'a poussé peut-être à tort à se dire que... À quoi bon ?
Non. Ben, oui, oui, non, mais... Oui, mais alors, c'est pas à ça que répond le président de la République. Parce que la réponse à ce que vous dites, ça serait une augmentation des salaires. Il faut que... Ben,
le SMIC déjà augmente plus que l'inflation en ce moment, puisqu'il a un mécanisme d'indexation... Il a un mécanisme d'indexation qui fait que comme il augmente sur la partie des 20% de l'inflation qui touche les plus pauvres, il aura pris au mois de juin, si l'augmentation technique intervient plutôt que prévu, car nous avons plus de 2% d'inflation entre la dernière augmentation de SMIC et la prochaine, on sera à peu près à plus 9%.
Le SMIC court après l'inflation, donc il la rattrape, elle le rattrape, etc. Il n'y a pas d'augmentation du pouvoir d'achat au niveau du SMIC en ce moment.
Ah ben si.
Il y a une indexation...
Il a pris 8% en un an, Mickaël. 8% en un an, il n'y a pas eu 8% d'inflation.
Enfin, justement, le mécanisme d'indexation dont vous parlez parle du pouvoir d'achat à ce niveau-là. Mais je voulais revenir sur le...
On va laisser réagir après. Mais allez, non, mais revenez sur ce que vous vouliez dire, allez-y.
Non, mais tout le discours en disant on va imposer du travail, d'abord, quel travail, dans quelles conditions.
Oui, d'accord.
Et le discours de dire il faut changer les minima sociaux, il faut sanctionner, c'est pas prendre le problème sérieusement. On a un problème de pauvreté, on a un problème de chômage, on a des problèmes de santé, de formation. C'est cela qu'il faut traiter dans leur ensemble. Et ça me paraît une façon extrêmement dangereuse d'aborder le sujet.
Céline, et puis ensuite Jean-Hervé, qui notamment avait un développement à nous faire en marge d'eux, mais voilà.
Oui, alors peut-être que là, je serais pas tout à fait d'accord. Disons que moi, je suis pas forcément opposée au fait que une rémunération soit la contrepartie d'un travail. Donc moi, c'est pas quelque chose qui en soi me choque, mais par contre, c'est la qualité de l'emploi, quel genre d'emploi, et surtout, qu'est-ce qu'on veut faire des gens qui sont allocataires du RSA. C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui déjà sont un peu éloignés de l'emploi. On risque de leur donner un emploi qui est en fait, qui est pas vraiment un emploi, qui est pas du tout une formation, qui est pas qualifiant. Et si je prends l'exemple de ce qui se passe dans des pays scandinaves, par exemple, ce qui est un peu la référence qu'on prend dans notre ouvrage.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'accompagnement dans ces pays-là.
Dans ces pays-là, on a en fait des indemnisations à la fois du chômage et au-delà, en fait, une indemnisation post-activité qui est très généreuse pendant 3 ans, en fait, à 90% du salaire, parfois, dans certains pays. Alors, je ne sais plus si c'est Danemark ou c'est... En tout cas, on a des indemnisations très généreuses, mais en contrepartie, des formations qui sont intenses, importantes, et vraiment un suivi des gens pour qu'ils retrouvent un emploi. Donc, on met tout pour que la personne arrive à alterner des périodes, on va dire, d'activité, de chômage, mais qui sont des périodes en fait actives puisque de reconversion. Là, j'ai un peu peur qu'on soit dans un modèle à la française où en fait on va donner quelques heures de travail à faire mais qui ne seront pas du tout qualifiantes et qui vont en fait déboucher sur rien. Et ça me fait, enfin voilà, et ça, je reconnais que ça me fait un peu peur parce que moi, je voudrais vraiment que les gens retrouvent le chemin de l'emploi et je suis pas sûre que ce soit, bien que ce soit dans le discours.
C'est un peu de votre avis parce que je considère que le I de RMI et le A de RSA ont globalement échoué.
Un tout petit peu d'optimisme, parce qu'en France, dès qu'on traite d'un sujet, on explique que c'est pas parfait, ce qui est vrai, la perfection n'est pas de ce monde. Donc, en plus, l'anti-macronisme primaire, honnêtement, la conférence n'était pas bonne, Macron n'est pas la vérité absolue. Donc, si on peut discuter du sujet qui est notre sujet d'économiste. Il y a deux contre-vérités, à mon avis, assez fortes. La première, c'est que c'est pas tabou, là je suis d'accord avec Céline, de se dire que une incitation à travailler qui est plus ou moins forte. Michael, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas beaucoup de différence, mais il n'y a pas suffisamment de différence entre le fait de travailler et le fait de ne pas travailler, c'est vrai. Alors oui. On peut trouver. Non mais l'exemple.
Le minimum là, c'est juste à 950 € et ceux qui auront peut-être 1150 ou 1200 euros.
C'est contradictoire avec l'idée qu'il y a une extrême pauvreté et maintenant une grande pauvreté des travailleurs non qualifiés, que les rémunérations sont extrêmement faibles. On est tout à fait d'accord là-dessus. Maintenant, qu'il y ait dans cette affaire une incitation plus forte au travail, ça me paraît assez évident. Et c'est pas du tout impossible à obtenir, parce que quand je regarde ce qui est passé sur l'apprentissage, je veux dire, on est passé de 300 000 à peut-être 1 million cette année, et c'est finalement pas... Non, mais ça veut dire qu'on peut et faire évoluer les choses, je veux dire, et pas forcément en traitant tous les sujets de l'humanité de manière simultanée, parce que ça veut dire qu'on n'y arrive pas. Mais... Attends, juste Céline. Oui. Deuxième contre-vérité, c'est l'idée que la majorité des gens qui ont le RSA sont des paresseux et ont une seule idée fixe d'être désassistés. Évidemment que non. Il y a le même pourcentage de paresseux chez les travailleurs très qualifiés, chez les travailleurs non qualifiés. Cette idée sans laquelle...
C'est difficile d'émettre une statistique sur la fainéantise.
Oui, sauf si, la preuve...
Je sais que Pôle emploi avait fait des travaux...
Non, laissons Pôle emploi ce qu'il est et prenons la chaire TDPE. Il avait
fait des travaux sur...
de faire un travail là-dessus, sur qui revient à expliquer exactement ce dont on aurait besoin en réalité pour rééquilibrer nos comptes, les deux déficits majeurs qui sont les déficits budgétaires et le déficit du commerce extérieur, et on s'aperçoit qu'il faudrait en gros avoir 7 à 8% de plus dans les 10 ans qui viennent
d'emplois à
créer, ce qui n'est pas du tout impossible, et ça veut dire qu'on ne peut pas qualifier une société de flemmarde, ni d'ailleurs les gens qui sont au RSA, parce que à 7 à 8% il y a toujours eu dans la vie, quand vous étiez en, alors vous êtes jeune, c'était en CE1 et moi c'était en 11e, il y a toujours eu 10 à 15% des gamins qui avaient envie de rien faire, 10 à 15% qui étaient des polars, et puis le reste qui sont nous qui travaillons selon l'intérêt des choses, et plus ou moins. Donc cette idée de fainéantise est une idée absurde. Évidemment que la majorité des gens qui sont au RSA ont une seule idée fixe, c'est de re-socialiser. Et il faut le faire intelligemment. Mais de là à dire qu'on ne peut pas en parler, ça me paraît... Laissons tomber Macron une seconde. On ne va pas tout centrer sur ce qu'il a dit hier. C'est normal qu'on en parle. Et dernier sujet, quand on regarde ce que ATD Quart Monde a lancé sur les territoires de suppression de l'emploi, c'est très malin. Évidemment que c'est très malin. Est-ce que ça peut être généralisé?
Vous pensez à quoi qui est très malin, Jean-Hervé?
C'est cette idée qu'on va activer les dépenses passives de chômage, c'est-à-dire qu'on va proposer
ça
à des gens...
Ça fait pas sur la table, ça fait des boum-boum. Hein.
Oui, mais c'est parce que c'est la passion. C'est la passion. C'est la passion.
Non, mais les auditeurs se plaignent.
Oui, ils ont raison, ils ont raison. L'auditeur a toujours raison. Mais oui, c'est l'idée qu'on va activer, c'est-à-dire prendre les dépenses de...
C'est les territoires zéro chômeur.
C'est les territoires zéro chômeur. Et c'est très, très bien, et c'est une manière assez habile de dire que le travail, c'est quand même salvateur pour tout le monde, évidemment.
Michel Zemmour. Il y a derrière ça l'idée qu'il faudrait, vous l'avez dit, augmenter les incitations au travail. Et c'est une idée qui est évidemment centrale en économie, mais il y a des fois où il n'y a pas d'incitation, il y a des fois où il y en a. Une des questions majeures sur les minima sociaux, c'est qu'aujourd'hui, on a une catégorie de la population qui est exclue des minima sociaux, les jeunes de moins de 25 ans. Vous êtes jeune de moins de 25
RSA,
ans,
oui.
Vous n'avez pas le droit au RSA. Pourquoi on le fait? Et donc on maintient des jeunes volontairement dans la pauvreté, et la raison de ça, c'est de dire on ne veut pas les désinciter à travailler. Or, en faisant ça, on fait le choix de la pauvreté chez une partie des jeunes et on ne lui donne pas les moyens, à la jeunesse en question, de se former, de chercher un travail dans des bonnes conditions. Et il y a des études qui ont regardé, mais du coup, est-ce que le RSA désincite à travailler? Est-ce que quand on passe la barre de 25 ans où on a le droit au RSA, le taux d'emploi baisse? Et c'est absolument pas le cas. Et donc, en fait, on maintient, au nom des incitations à travailler, des gens dans la pauvreté pour de mauvaises raisons, parce que si on les soutenait davantage financièrement, au contraire, probablement que ces personnes-là pourraient se former et trouver un emploi dans des meilleures conditions.
Oui, mais pour moi, il faut qu'il y ait toujours cette optique de formation, parce que le problème, c'est qu'on risque de donner effectivement un RSA sans avoir vraiment de contrepartie et sans avoir de formation, et ce qui en fait ne reviendrait qu'à avoir une sorte de revenu universel, mais dans le sens revenu universel, qui serait vraiment finalement, certains ont le droit d'avoir des bons emplois, etc., et puis le reste, c'est une population subventionnée qui en fait ne progresse pas et stagne. Donc,
bien sûr, mais quand vous vivez avec moins de 500 euros par mois,
je dis pas que c'est la panacée, mais je veux dire, à ce moment-là, il faut vraiment qu'il y ait des espèces de contreparties, une formation contre un revenu, en fait.
Il faut évidemment augmenter le RSA. Deux, il faut la sortir de formation, c'est-à-dire d'accompagnement.
Oui,
tout le monde sera d'accord. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on sort? Parce que toi, tu sors toujours les études, et moi, je sors le Danemark, qui est la merveilleuse illustration de ce qu'il faudrait faire. Et puis, vraisemblablement, élargir le RSA. Alors, je ne sais pas à partir de quel âge, mais l'élargir à la jeunesse, je suis d'accord là-dessus.
Et puis bon, il faut quand même rappeler qu'en France, il y a dans certains secteurs des difficultés de recrutement. Donc, en plus, il faut vraiment faire en sorte, à mon avis, que les formations soient en accord avec, avec les secteurs qui recrutent aussi.
La vraie réforme qui va être majeure, c'est la réforme des lycées professionnels. Il faut les réformer. La moitié des formations de cette nature sont extrêmement productives d'emploi. Les gamins qui sortent de là ont deux ou trois possibilités d'emploi. Et puis, il y a toute une partie, la moitié n'ont pas d'emploi à la sortie. Et ben, quand il n'y a pas d'emploi, à quoi ça sert de former des gens pour des jobs qui n'existent pas? Donc, c'est évidemment ça qu'il faut faire. pas facile, parce qu'il y a 20 000 professeurs qui font
et il faut aussi que les entreprises acceptent.
C'est pas facile.
Il faut aussi que les entreprises acceptent de faire plus de formation, parce qu'il est vrai qu'en France, on est quand même dans un système dans lequel l'entreprise attend quand même que le jeune ou le moins jeune arrive de façon totalement formée et fait peu de formation en entreprise. Alors que dans d'autres pays, on peut arriver avec un diplôme en humanité et devenir,
Le Danemark.
Consultant. Non, mais pas que, d'ailleurs. Ah bon. Dans les pays anglo-saxons, pour le coup, ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien, le côté où l'entreprise vraiment met les moyens de la formation. En France, on attend des gens hyper formés, expérimentés, qui ont suivi telle filière, etc. Donc il faut ça aussi donner les moyens aux entreprises.
Il y avait un projet d'Emmanuel Macron, une sorte de salaire universel, là. Je sais plus comment il s'appelait, mais il a jamais vu le jour.
Le revenu universel.
Ça, c'était Benoît Hamon qui avait cette.
Mais ouais.
Tout le monde, attention, quand on dit revenu universel,
il y a beaucoup de concepts.
Il y a 25 concepts derrière. On peut aller jusqu'à carrément l'impôt négatif, pourquoi pas. Bon, mais c'est un sujet complexe. À mon avis, on y viendra un jour. Hein, mais on a 2 minutes 50.
Ouais, je lisais votre bandeau à l'instant. Il y a marqué RSA, les allocataires devront faire 15 à 20 heures par semaine. C'est pas vrai. C'est une formule. On n'a absolument pas ni les moyens, ni la logistique, ni les activités.
On n'a pas les moyens. Oui.
Donc, c'est des déclarations en l'air qui visent à mettre le soupçon sur le fait que les personnes au RSA ne veulent pas travailler. S'il y avait des emplois en face, l'immense majorité de ces personnes ne seraient pas au RSA. Ou alors, si elles y sont, c'est qu'elles ont d'autres problèmes à régler d'abord.
Non, c'est vrai que c'est le projet, c'est d'imposer des heures de travail. On sait qu'effectivement, les dispositifs du futur France Travail ne sont pas du tout opérationnels pour ça.
Il ne faut absolument pas donner le sentiment que les gens qui sont au chômage le sont par plaisir. L'immense majorité ne souhaite qu'une seule chose, c'est se resocialiser. Mais il est vrai que on sait aussi, puisque, cher Michael, vous aimez les études, que la recherche d'emploi se fait plutôt à la fin de la période toutes les études.
Ça dépend pour qui, parce que pour les plus qualifiés, c'est vrai qu'on voyait un petit impact au moment où les allocations arrivaient à la fin. Pour les plus qualifiés, c'était pas vrai pour les moins qualifiés. Qui, en revanche, eux, avaient clairement des difficultés à trouver. Et donc, du coup, je trouve d'ailleurs, j'allais en parler, des allocations chômage, la réduction de cette durée des allocations chômage. Là aussi, alors déjà, je trouve que ça met quand même un coup de canif dans notre contrat social. Enfin, je veux dire, on est quand même dans un système assurantiel. Hein, on cotise avoir droit. Donc, alors, c'est vrai qu'on dit, c'est généreux, mais le montant des cotisations est généreux aussi. Hein. Enfin, donc, c'est un système
d'assurance. On n'a pas touché au montant des cotisations.
Bien sûr, mais je veux dire, le fait de considérer que ne pas regarder en plus ce qui se passe dans des domaines spécifiques où il peut y avoir des problématiques spécifiques de l'emploi, c'est quelque part considérer que les gens qui sont au chômage le sont de façon plus ou moins volontaire. Et ça, je trouve ça quand même dérangeant comme idée.
Les évolutions qu'ont eues à partir de Madame El Khomri, donc la fin Hollande, jusqu'à maintenant sur l'évolution de l'organisation et la régulation du marché du travail, ont quand même eu un impact. Là, les économistes sont obligés de constater qu'il y a eu 1,8 million de créations d'emplois nets dans les 5 dernières années.
C'est le virage de la...
Je suis d'accord, mais enfin, ça fait partie d'une logique qui a démarré il y a un peu plus de 5 ans.
J'en ai rêvé dans l'idée, même si on ne peut pas suivre chaque euro.
Oui, mais moi je parlais vraiment de cette réforme récente qui visait quand même un peu à dire que les chômeurs sont un peu entre guillemets volontaires, et ça permet pas à tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont quand même dans des situations dans lesquelles on a beau réduire la durée des allocations, ça va juste faire plus de personnes au RSA ensuite.
Il y a quand même pas mal d'éléments qui permettent de valider qu'une politique de l'offre finit par avoir des effets positifs. Souvenez-vous le badge de Gattaz, on s'est moqué de lui, sauf que le million d'emplois qui avait inscrit sur le badge, et à la fin des 5 années, les millions d'emplois, il était là.
Étude en profondeur, et notamment l'augmentation de l'emploi, on peut être pour ou contre, mais c'est beaucoup de l'apprentissage.
Tous les pays
les calculent comme ça. Je vois pas pourquoi. Pour une fois qu'on a un bon résultat, on est dans la seconde
qui suit. Je dis que du coup, il faut pas interpréter les chiffres du chômage à l'aune de ça.
Imaginons même qu'il y ait eu 400 ou 500 000 apprentis, il en reste 1,3 million qui sont des créations d'emplois.
L'apprentissage a été l'un des phénomènes 2022 qui peut effectivement venir en débat sur le recul du chômage. Merci d'avoir été là. Gervais Lorenzi, Céline Antonin, Michael Zemmour, rendez-vous demain à 9h.